Le 7-9.
Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin est sénatrice PS de l'Oise et ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes.
Bonjour à vous Laurence Rossignol.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin. Une maman voilée, prise à partie et humiliée devant son fils par un membre du Rassemblement National dans un conseil régional. Des ministres qui se déchirent publiquement sur la question, une nouvelle fois. Et de manière presque pavlovienne, depuis l'affaire du foulard de Creil il y a 30 ans, le voile islamique cristallise les tensions, et ce, particulièrement en France par rapport aux autres pays. Pourquoi ce sujet revient inlassablement dans le débat public? Qu'est-ce qui, dans le voile, perturbe autant?
En fait, ce sujet revient toujours dans le débat public parce que c'est l'intérêt à la fois de l'extrême droite de mettre le voile dans le débat public, parce que c'est le voile qui permet d'incarner, d'imager le péril islamiste, le péril musulman. Et c'est l'objet du racisme anti-musulman de la part de l'extrême droite. Et c'est l'intérêt aussi des islamistes de mettre le voile dans l'espace, dans le débat public. Parce que, alors que le voile est une pratique rigoriste, archaïque de l'islam, que ce n'est pas la pratique de l'immense majorité des musulmans qui vivent en France, à chaque fois qu'il y a un acte raciste anti-musulman qui est lancé par l'extrême droite, ça permet de coaliser les musulmans dans un sentiment bien légitime de solidarité derrière les islamistes. Donc, nous sommes pris en étau entre l'extrême droite, les lepénistes et les islamistes qui essayent effectivement de nous faire choisir entre leurs deux camps. Or, il faut nous, de notre côté, sortir de cet étau. Pour sortir de l'étau, il faut être lucide. Le voile est le symbole d'une religion rigoriste qui diabolise le corps des femmes. Il ne faut pas bouger là-dessus.
Donc vous êtes d'accord avec Jean-Michel Blanquer quand il dit « le voile n'est pas souhaitable dans la société ».
Le voile est à la fois une pratique rigoriste et un projet politique. Mais les opinions politiques sont légales dans notre société. Et pour combattre l'islamisme, il faut le combattre avec autre chose que des interdictions, puisqu'on n'a jamais fait reculer une seule idée par des interdictions.
Alors, on va en parler. Mais d'abord, je voudrais vous faire réagir sur ce qui s'est passé ce week-end dernier au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, puisque ça a commencé, comme vous dites, avec une provocation, je ne sais pas, je vous la laisse qualifier, d'un membre du Rassemblement national. Ce qui s'est passé, de devoir en arriver là, à la prise à partie, l'humiliation devant son fils qui a pleuré à côté, qu'est-ce que ça vous évoque? Pourquoi on en est arrivé là?
Mais ça m'évoque le racisme de l'extrême droite, qui aujourd'hui est un racisme anti-musulman, qui hier était un racisme contre les immigrés. Et que l'extrême droite est profondément, historiquement raciste. Elle manipule la laïcité. La laïcité n'est pas dans l'histoire de l'extrême droite. L'extrême droite n'a jamais fait partie du camp laïque. C'est important de dire ça. Leur idée, c'est de restaurer une France chrétienne. Et ils utilisent la laïcité pour ça. Donc, avec la laïcité, ils font un acte raciste qui est évidemment, nous, de notre point de vue, notre empathie, elle va immédiatement vers cette mère et vers son fils. C'est une évidence. Mais c'est carton plein pour les deux camps à la fin. Parce que carton plein pour l'extrême droite qui restructure les siens, carton plein pour les islamistes qui nous ont amenés à les défendre.
Mais n'est-ce pas carton plein, comme vous dites, parce que il y a un vide juridique? C'est en tout cas ce que pense la droite. C'est en tout cas ce que pense Christian Jacob hier qui a dit, il faut clarifier les choses, il faut une loi qui interdise le voile pendant les sorties scolaires. Et il l'explique comme ça. Comment expliquer que le voile soit interdit dans l'enceinte de l'école, mais que qu'on l'autorise au contact des enfants en dehors, alors qu'une sortie scolaire, c'est toujours dans le cadre scolaire? Qu'est-ce que vous lui répondez? Il faut une loi?
Alors, deux choses. D'abord, qu'il n'y a pas besoin d'une loi pour faire ça, parce qu'il y a des ensembles de juristes spécialistes de la laïcité qui considèrent que déjà le temps scolaire est un temps qui doit être protégé des influences religieuses. Et la deuxième chose, c'est que...
C'est pas clair ce que vous dites. Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas besoin de loi? Parce qu'on se retrouve après dans une configuration comme celle-là, c'est-à-dire Jean-Michel Blanquer qui dit les mamans voilées lors des sorties scolaires, c'est pas souhaitable, et en même temps, il ne faut pas l'interdire. C'est ce vide-là, vous comprenez bien, sur lequel l'extrême droite peut jouer.
Je ne dis pas que les mères voilées ne sont pas souhaitables. Je dis que le projet politique porté par l'islamisme est un projet politique qu'il faut combattre dans notre société.
D'accord, mais sur les sorties scolaires, vous dites quoi?
Pour les sorties scolaires, je dis que les enseignants, aujourd'hui, sont en capacité de se débrouiller. Je dis qu'il n'y a pas de droit à la sortie scolaire pour les mères qui portent le foulard. Mais je dis qu'aussi, si systématiquement les enseignants qui choisissent les parents qui accompagnent les enfants rejetaient une mère avec un foulard, nous aurions là effectivement quelque chose qui serait discriminatoire à l'égard de ces mères. Je dis que la loi n'est pas la bonne solution et que la droite, dans cette volonté, surtout en ce moment, de faire voter une loi après ce qui s'est passé au Conseil régional vendredi, n'est pas raisonnable. Parce que c'est pas raisonnable parce qu'on sait que ça ne va pas régler le problème. Et puis par ailleurs, les enfants sont en contact avec des mères voilées, bien entendu. Et les enfants des familles non voilées, des familles arabo-musulmanes non voilées, les enfants des familles non arabo-musulmanes sont en contact. L'exclusion d'espace scolaire n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le prosélytisme. Est-ce que ces mères font ou non du prosélytisme? Si elles font du prosélytisme, alors les enseignants doivent les exclure.
Ça veut dire quoi, faire du prosélytisme?
Faire du prosélytisme, c'est par exemple...
Pour des mamans qui accompagnent des enfants lors d'une sortie scolaire, ça veut dire quoi?
Faire du prosélytisme, c'est par exemple interpeller un petit enfant qui est d'une famille arabo musulmane et lui dire mais pourquoi ta maman elle porte pas le foulard elle. Faire du prosélytisme c'est parler d'une pratique de l'islam pendant le temps scolaire. Faire du prosélytisme c'est intervenir sur la nature des sorties scolaires, le contenu. Est-ce qu'on met aussi du créationnisme, est-ce qu'on revoit l'histoire de la terre à partir de concepts religieux, tout ça. Mais par ailleurs je veux dire une chose, on est à juste titre très mobilisés par l'islamisme. Mais dans les quartiers, ce serait bien qu'on s'intéresse un peu à ce que font les évangélistes, qui sont largement aussi présents, moins visibles, très prosélytes, et qui, eux, interviennent également sur le contenu des enseignements. Donc, je pense qu'aujourd'hui, faire voter une loi, comme le propose la droite, n'est pas la bonne mesure pour faire baisser l'emprise religieuse. Notre sujet, c'est l'emprise religieuse. Et je voudrais dire une chose, je sais pas le temps qui nous reste, mais ce qui a été le plus dramatique pour les quartiers populaires, ça a été le retrait, il y a 2 ans, de 250 000 emplois aidés. Le jour où le gouvernement a supprimé ces emplois aidés, le gouvernement a donné un laissez-passer aux islamistes en leur disant « Allez-y, les quartiers c'est pour vous, déployez-vous ». Quand il n'y a plus d'associations, quand il n'y a plus d'éducation populaire, quand il n'y a plus rien pour tenir la cohésion sociale et humaine dans les quartiers populaires. Les frères musulmans
Laurence
se déploient,
Rossignol,
c'est tout pour eux.
Emmanuel Macron vous répondrait s'il était là que c'est vous, la gauche, qui n'a pas voulu voir le problème pendant des décennies, que ce n'est pas les deux années d'emploi aidé qui ont causé le problème dans les banlieues.
Alors, voir le problème, je ne dirais pas qu'on n'a pas vu le problème, je dirais qu'on a été comme nombreux à ne pas savoir totalement comment le résoudre. Je sais que Emmanuel Macron ne peut pas dire ça, parce qu'on ne peut pas prendre la discussion sur l'emprise religieuse dans les quartiers uniquement par un biais législatif de sanctions. Il faut le prendre par l'alternative. Il faut faire reculer les frères musulmans dans les quartiers. Pour les faire reculer, il faut être en face d'eux. Pour être en face d'eux, il faut des ressources humaines, il faut des éducateurs, il faut du travail socio-éducatif. Et je veux pas qu'on ait un débat qui fasse abstraction de cette pratique de terrain qui est indispensable. On a abandonné les quartiers aux islamistes, et bien aujourd'hui, s'y développe dans les quartiers.
Le gouvernement se divise publiquement sur la question du voile. On l'a vu ces dernières 48 heures entre un Jean-Michel Blanquer qui dit que ce n'est pas souhaitable, une Sibeth Ndiaye qui ne voit pas le problème du voile. Est-ce qu'il faut qu'Emmanuel Macron s'exprime? Est-ce qu'il faut que le président de la République tranche cette question, qu'il donne sa vision de la laïcité? Ou au fond, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment et mieux vaut qu'il reste dans ce flou-là.
Alors, on a attendu un grand discours d'Emmanuel Macron sur la laïcité, qui n'est jamais venu, qui a été toujours reporté. Et à la place, on a eu le discours des Bernardins, qui n'est pas exactement un discours sur la laïcité, qui est un discours à destination de l'Église catholique, un discours assez aimable à destination de l'Église catholique. Et puis on a, au gré des événements, on voit arriver la laïcité. Par exemple, dans la lettre aux Français après les Gilets jaunes, on voit arriver les mots immigration et laïcité. Mais ça, ce n'est pas un discours sur la laïcité. Quand on a un attentat terroriste, on voit ressurgir les questions de laïcité. Et poser la question de la laïcité par rapport aux troubles à l'ordre public, qu'ils soient ceux des Gilets jaunes ou le terrorisme, n'est pas une bonne façon pour un président de la République de donner à son pays la cohésion nationale et la défense des libertés.
Voilà. Donc vous attendez un discours en dehors d'un attentat terroriste, en dehors d'une réaction, vous attendez un discours fort d'Emmanuel Macron sur la laïcité.
Et j'attends surtout le travail social qui va avec.
Merci Laurence Rossignol et belle journée à vous.